Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine comme chaque matin et on file tout de suite sur le marché. Thibaut François nous attend chez Fastia Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Bon, on se pose quand même des questions en regardant évoluer cet indice. On pensait qu'on était parti bon pied bon oeil pour gravir une marche de plus. Et puis il y a du doute qui s'instille.
Oui, c'est pas si mal que ça quand même. On gagne 0,56 encore sur le marché. Bon, c'est vrai qu'on gagne un peu plus de 1% ce matin vers 10h. Mais on gagne encore 0,56%, c'est plutôt pas si mal que ça. On confirme le rebond important du CAC 40 la semaine dernière en fin de semaine avec un peu plus de 3% de hausse pour l'indice CAC 40 vendredi. Le marché américain a très bien clôturé aussi vendredi et donc on est un petit peu dans le sillage de New York. Il y a un petit peu de volume en plus avec un peu plus de 600 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40. Le marché bénéficie, on va dire, d'une détente sur la partie taux longs. Les taux longs arrêtent de monter, donc on a un UST qui tourne autour de 2,02. On a le Brent aussi qui arrête de monter, qui est autour de 113 dollars, donc tout ça se détend un petit peu. On a eu des chiffres en fin de semaine dernière qui sont plutôt favorables à une inflation qui pourrait un petit peu plafonner, donc tout ça laisse entendre que s'il y a une inflation qui continue à plafonner et sur lesquels on a un peu plus de visibilité, ça voudrait dire que le resserrement monétaire sera moins rapide que prévu et donc le marché se détend un petit peu et on retrouve un petit peu d'appétit sur la partie action et sur la partie risque. D'ailleurs, ça se voit un petit peu avec le palmarès du CAC 40. On retrouve en tête du palmarès, on va dire, plutôt des valeurs cycliques. Renault qui gagne un peu plus de 4%, Alstom qui gagne un peu plus de 2,5%. Donc des valeurs cycliques qui sont plutôt plébiscitées ce matin. Donc ça c'est plutôt encourageant. Donc le marché est plutôt bien orienté et on va dire en dehors du CAC 40, on a eu aussi une bonne surprise sur Prosus qui est en dehors du CAC 40, une publication qui est en ligne avec les attentes mais avec des rachats de titres qui sont assez importants pour profiter de la décote. Ça pourrait être un petit peu la thématique pour les prochaines semaines, profiter un petit peu des soldes sur certains dossiers qui se retrouvent en dessous de l'actif net pour pouvoir repartir.
Et du coup, qu'est-ce que vous surveillez plus particulièrement ce matin ?
Ce matin, on a deux valeurs à surveiller. On a vraiment des news qui sont vraiment totalement différentes. Et d'ailleurs, on a les deux valeurs en hausse en tête du palmarès sur le SBF 120 et en baisse, notamment en plus forte baisse sur le SBF 120. On a dans les bonnes nouvelles, on a Forestia. C'est Jefferies qui repasse à l'achat sur le dossier Forestia. On attend une reprise des volumes sur la deuxième partie d'année avec un environnement tarifaire qui sera beaucoup plus favorable pour Forestia. En plus, on pourrait avoir des cessions d'actifs qui devraient entretenir, on va dire, les bonnes nouvelles sur le dossier Forestia. Donc, Forestia gagne un peu plus de 5% ce matin, autour de 20-27 sur Forestia. Et à contrario, on a Ipsen qui fait une acquisition, une OPA sur Epizim. Donc c'est une société biopharmaceutique notamment spécialisée sur la partie médicaments de traitement au cancer. L'acquisition est pas forcément très importante pour Ipsen, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel et 250 millions de dollars de prix, mais par contre ça risque d'être dilutif à court terme, donc le marché est plutôt prudent sur le dossier Ipsen à court terme, et donc c'est pour ça qu'on a un recul aujourd'hui d'un peu plus de 4% sur le dossier Ipsen.
Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, donc Fastia Capital, qui nous accompagne chaque lundi pour prendre le pouls de la séance au début de la deuxième heure de BFM Patrimoine.
BFM Business, BFM Patrimoine, le face-à-face.
Frédéric Rollin et Éric Turgeman participent à ce face-à-face. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric.
Éric pour Ophi AM, Frédéric pour Pictet Asset Management. Merci à tous les deux d'être là. Et on va bien évidemment largement parler d'inflation et de la façon dont on doit un peu appréhender, se positionner, lutter, tirer nos marrons du feu de cette situation de hausse des prix. On a encore énormément de statistiques qui vont tomber cette semaine. Et puis il y a cette réunion de Sintra que j'évoquais. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment il faut voir les choses, Frédéric ?
Je crois que les banques centrales aujourd'hui sont dans une situation particulièrement difficile. On a une inflation qui est plutôt forte, supérieure à ce qu'ils attendaient. Donc déjà, problème de crédibilité, ils se sont trompés sur l'inflation. On voit qu'en Europe, bon, si l'inflation est quand même essentiellement menée par les prix de l'énergie et de l'alimentation, il y a quand même un petit peu de contagion sur l'ensemble des prix. Donc une inflation qui est plutôt solide et une politique monétaire qui est ultra accommodante. Il faut resserrer, mais ça a des conséquences. Un resserrement monétaire va ralentir l'économie qui est déjà ralentie par les pertes de pouvoir d'achat du consommateur. Ça peut avoir un effet aussi sur le financement de certains États, hein, notamment l'Italie qui a une dette plutôt importante. Et tout ça, pour finir, dans un contexte où on voit que les fournitures de gaz de la part de la Russie sont en train de se raréfier. Nord Stream va fermer pour des raisons de maintenance pendant un mois. Donc, on va se retrouver dans une situation où nos avertis risquent d'y avoir des pénuries. Donc, une inflation forte, un contexte économique difficile, et pourtant, il va falloir resserrer la politique monétaire. C'est une tâche extrêmement, extrêmement difficile. Et voilà. Mais si l'inflation est là, les banques centrales vont devoir prendre le risque d'un ralentissement monétaire, voire d'une récession, ce que nous n'anticipons pas, mais ce qui devient de plus en plus possible pour normaliser cette politique. Ouais.
C'est une nécessité que de s'expliquer. On a vu les banquiers centraux mettre en place leurs mesures et puis donner quelques clés et puis les marchés presque les challenger ou faire semblant de ne pas les avoir bien compris ou de s'inquiéter. C'est-à-dire qu'un symposium un peu comme celui-là, hein, qui, je le rappelais, est un peu le pendant de Jackson Hole qui a lieu en fin d'été, est d'autant plus important aujourd'hui par rapport à d'autres années ?
Oui, c'est ce que disait Frédéric. Il va falloir qu'ils réaffirment leur crédibilité, parce que finalement, ça faisait 10 ans hein, que les banques centrales faisaient un sans-faute, et d'ailleurs, on se félicitait de ça, en disant voilà, ils arrivent à avoir des forward guidance qui permettent de vraiment comprendre ce qu'ils vont faire. Et puis, il y a 6 mois, ils ont quand même été dans le déni vis-à-vis de l'inflation, parce que même avant l'Ukraine, moi, je reste persuadé qu'il y avait quand même des tensions inflationnistes, avec notamment le prix des métaux de la transition énergétique. Et les banques centrales n'ont pas arrêté de dire c'est transitoire. La BCE, d'ailleurs, plus longtemps que la Fed. Et à un moment donné, ils ont perdu un petit peu de crédibilité. Donc là, ils donnent un grand coup de gauche à droite et en essayant effectivement d'ancrer les anticipations d'inflation. Il faut le faire. Mais d'un autre côté, la ligne de crête est étroite parce que on balance entre inflation et récession. Je pense qu'ils ont pris le parti, notamment aux États-Unis, d'admettre qu'il y aura une récession plus ou moins longue, mais de manière à apaiser cette inflation. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis des années, tous les intervenants venant en disant les taux ne peuvent pas remonter parce que les banques centrales, vu les endettements des pays, ne pourront pas supporter. Enfin, c'est une phrase qu'on a entendue 10 fois par jour. Bah oui, les taux remontent, quoi. Et pas qu'un peu, parce que même si ça se calme depuis quelques jours, personne n'imaginait un taux américain allant frôler les 3,5%. Enfin, on disait est-ce que ça peut dépasser 2. Donc voilà, donc attention à la pensée unique. Oui, les taux peuvent remonter et demain, la récession peut arriver. Ce qui permettra d'ailleurs de peser sur les taux. Enfin, d'ailleurs, c'est le but des banques centrales.
Mais d'ailleurs, ça veut dire que finalement, on s'accorde, enfin vous accordez, à nous dire une période de relèvement significatif des taux ne peut pas bien se terminer et autrement verbalisé de façon peut-être un peu plus abrupte, la récession est au coin de la rue.
Alors, le risque de récession a gagné de l'importance. Pour nous, pas à court terme. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même des bilans des entreprises et des ménages qui sont aujourd'hui plutôt solides et qui leur permettent de résister à ces hausses de prix. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour quelques mois, les banques centrales ont probablement cette fenêtre qui leur permet de remonter leurs taux, de normaliser en tout cas en partie leur politique monétaire, tout en n'emmenant pas les pays très directement dans la récession. Maintenant, voilà, ça, tout ceci n'aura qu'un temps. L'inflation va finir par véritablement faire mal et on risque d'avoir, enfin, la grande question, ce sera l'économie au cours du deuxième semestre. Et c'est toute la difficulté qu'ont les banques centrales, effectivement, de remonter leurs taux, mais pas trop, pour permettre à l'économie au deuxième semestre de tenir. Alors, tout ça, bon, ce sont beaucoup de mauvaises nouvelles. On a l'impression, voilà, que c'est absolument impossible, on peut pas y arriver. Attention, quand même, il y a quelques nouvelles qui sont apparues ces derniers temps, qui sont un petit peu meilleures, qui vont aider les banques centrales à parvenir à éviter la récession. La première, c'est que le ralentissement économique quand même commence à peser déjà sur les matières premières. On voit le prix notamment du cuivre, le fameux docteur cuivre, docteur copper, qui a fortement baissé. Donc, ben voilà, ça c'est quand même des pressions inflationnistes en moins. Et de nombreuses matières premières sont dans ce cas-là. Et on commence à voir aussi, alors ça a été une donnée la semaine dernière qui a été assez importante et qui justifie une partie du rallye récent, que finalement les anticipations d'inflation des ménages sont un petit peu moins fortes que prévues. Donc, si ces anticipations sont un peu moins fortes que prévues, ça veut dire peut-être que l'inflation est un peu moins ancrée qu'on ne le craignait, et donc peut-être que la Fed aura besoin d'en faire un peu moins qu'elle ne le pensait au départ. Donc, pas impossible quand même d'avoir une économie qui tienne pendant quelques mois, et ensuite, eh bien, des anticipations d'inflation qui auront baissé avec bon, le ralentissement et le prix des matières premières, et du coup, peut-être une Fed à l'approche en plus des midterms, qui pourra être peut-être un petit peu plus accommodante.
La récession, elle est forcément au coin de la rue ?
Alors, bon, pas forcément. En fait, effectivement, du côté des entreprises, ça va plutôt bien, mais on reviendra peut-être dessus. Après, deux choses l'une pour les ménages. C'est-à-dire, soit les salaires augmentent, suivent, et bien là, c'est l'inflation, parce que la spirale prix-salaire, c'est l'inflation. Soit les salaires ne suivent pas. Suivent un peu moins. D'ailleurs, là, on entendait 4% de revalorisation des retraites en France. C'est pas l'inflation. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une perte de pouvoir d'achat. S'il y a perte de pouvoir d'achat, à la fin, il y a ralentissement. Voilà. Alors, récession, ralentissement, de toute manière, ça va ralentir après chaque période d'inflation. Derrière, il y a appelons ça comme on veut, une récession, une croissance plus faible. Mais on va continuer à revoir la croissance en baisse. On avait commencé avec plus de 4% de croissance mondiale. On en est à 3. Ça va beaucoup dépendre de la Chine, parce que là aussi, enfin, c'est un point important. Donc, de toute manière, il y aura un ralentissement, mais c'est voulu. C'est voulu par les banques centrales. Le problème, quand même, c'est que l'inflation, c'est pas qu'un choc de demande aujourd'hui, c'est un choc d'offre. Donc, on peut élever les taux autant qu'on veut, ça va peser sur la demande, mais en revanche, ça va pas aider le problème d'offre qui était dû. Notamment, enfin, la guerre en Ukraine est venue derrière la crise du Covid, où il y avait effectivement des problèmes de chaîne d'approvisionnement, etc. Et ça, c'est pas uniquement en montant les taux. Donc, les banques centrales sont un peu embêtées avec ça. C'est pas simple.
Là, on causait essentiellement de nos deux rives de l'Atlantique, Europe et États-Unis. Mais si on tourne la map monde, on se retrouve de l'autre côté. Et pour reboucler sur vos questions de matières premières, c'est la question chinoise. Parce que, effectivement, vous nous dites ça reflue sur certaines matières premières. Ça, c'est si, entre guillemets, la Chine ne revient pas au rendez-vous. Or, on sait que, a priori, la dynamique est monétaire et politique, etc., de la Chine, est à l'inverse des nôtres. C'est-à-dire que là-bas, on remet du charbon dans la machine, enfin, pardonnez le jeu de mots, pour porter le président Xi à sa nouvelle réélection ou nomination, alors, je ne sais pas comment il faut dire, intronisation.
Alors,
est-ce que vous voyez le cas chinois ?
C'est manque de visibilité, vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en Chine, je dirais tout ce qui est classique pour un économiste plaide pour un rebond économique plutôt solide. On a une politique monétaire qui est redevenue enfin plutôt accommodante, même si ces dernières semaines ça a été un peu moins, mais enfin quand même dans l'ensemble on sent une politique monétaire vraiment plus volontariste. Au niveau budgétaire ça se passe mieux, au niveau réglementaire aussi on a eu quelques exemples, notamment avec des approbations. Alors c'est anecdotique, mais ça donne une idée quand même de l'ambiance, de nombreuses approbations de jeux électroniques. Donc on sent que finalement tout ce qui avait freiné du côté du gouvernement, des banques centrales, des autorités, l'économie chinoise est en train aujourd'hui plutôt de la pousser. En général, l'économie chinoise répond très très bien. Alors c'est un peu comme un bateau, il faut tourner la barre pas mal et puis au bout d'un moment ça y est, ça prend le virage. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la politique zéro Covid, c'est-à-dire que hors politique zéro Covid, je pense qu'on pourrait être très très positif sur les actions chinoises, sur la Chine, etc. Avec cette politique zéro Covid, hein, qui est un variant Omicron qui est particulièrement contagieux, je pense qu'il y a encore des doutes aujourd'hui quant au rebond économique chinois. Donc voilà, tout plaine pour un rebond économique, sauf cette politique zéro Covid dont on mesure mal aujourd'hui les conséquences, parce que voilà, est-ce qu'on sait que à tel endroit, on va être l'économie va être fermée. C'est extrêmement difficile aujourd'hui à anticiper.
Comment vous voyez le cas chinois du côté d'OFIM?
Alors, il y a le court terme et le moyen terme. À court terme, Xi Jinping ne peut pas se permettre d'arriver avec une croissance qui s'effondre, parce que alors élu, c'est pas le mot, mais enfin reconduit peut-être à vie, enfin voilà, à son poste. Donc, il va ouvrir toutes les vannes, hein, fiscales, monétaires, c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, à plus long terme, la Chine a quand même un sacré problème démographique, hein, donc. On le disait pendant longtemps, quand on parlait de déflation et justement plus jamais d'inflation, on disait un des moteurs, c'est la démographie mondiale. Alors les Chinois, avec la politique de l'enfant unique, ils ont du mal à en sortir. Donc de toute manière, la croissance chinoise, rien que pour cette raison, ne va plus connaître les 10% qu'on connaissait il y a quelques années. Donc ils vont venir tranquillement se poser comme toutes les économies développées. Un jour à 3-4%. Voilà, donc on va y aller tout doucement. Mais à court terme, on peut s'attendre à des bonnes nouvelles sur le Covid. Effectivement, soit ils veulent montrer qu'ils ont au moins réussi là-dessus, puisque l'économie ralentit, donc montrer, voilà, vous voyez, on fait attention à notre population, soit ouvrir un peu pour permettre un peu de... Donc on ne sait pas. Ouais, franchement, sur le Covid, on ne sait pas. En tout cas, il continue à être très drastique de ce point de vue-là.
Est-ce que vous décelez aussi peut-être un petit changement de ton politique? Je crois que c'est Emmanuel Salle, financière de la Cité, qui nous disait à la une des grands quotidiens, genre Quotidien du Peuple, etc., il y avait avant systématiquement, tous les jours au moins, une photo de Xi Jinping en une. Et depuis quelques temps, il y a des jours où il n'y a pas de photo de Xi Jinping. Et il notait que Li Keqiang, le Premier ministre, commençait à peser. Voilà. Est-ce qu'il y a des changements politiques, enfin, des évolutions?
Alors ça, je sais pas. En toute franchise, enfin, je pense que actuellement, enfin, on voit pas, en tout cas, de changement radical là-dessus. Et voilà, je pense que la politique a été menée jusque-là, va continuer d'être menée. Alors c'est vrai qu'il y a eu probablement des débats internes, notamment sur la politique zéro Covid. Oui, voilà, on a même eu un article d'un ancien officiel très reconnu qui est apparu dans le China Daily, donc voilà, un organisme de presse tout à fait enfin proche du gouvernement, remettant en question la politique zéro Covid. Bon, cet article a disparu. Ah. Hein, il est plus là. Alors la personne n'a pas disparu, mais l'article a disparu.
Au mieux que l'article disparaisse que la personne.
Voilà, l'article a disparu. Oui, non, mais c'était bon. À la limite, il peut y avoir quand même des débats dont certains sont mis sur la voie publique, mais très très clairement aujourd'hui la politique zéro Covid l'emporte. Il y a probablement des dissensions, voilà, mais peut-être qu'on va laisser, on laisse un petit peu plus aux régions de gérer le problème, d'être un petit peu plus précis aussi dans cette politique zéro Covid. Donc c'est vrai que on pourrait avoir cette politique zéro Covid un petit peu plus, voilà, un peu plus précise et donc peut-être un peu moins coûteuse dans les mois qui viennent. Ça va être intéressant à suivre.
Oui, juste un mot sur la Chine. Eric. Vous savez que OFI a une filiale là-bas, on a une filiale à Hong Kong et on a des Chinois qui travaillent là-bas, donc on a des renseignements un peu sur place. Et en fait, effectivement, d'ici on a l'impression que c'est une dictature, Xi Jinping fait ce qu'il veut, etc. Il y a à l'intérieur du Parti communiste, c'est pas si simple. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une opposition, c'est pour ça, en fait, qu'il a plus d'opposition en interne que Poutine peut en avoir en Russie. Donc voilà, il y a des tiraillements sur le Covid, mais sur aussi l'économie. Mais nous, d'ici, on a l'impression que ça part d'en haut et que tout le monde exécute. C'est pour ça que, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il fera tout pour se montrer beau, d'une manière générale.
Juste pour préciser, je crois que la dernière fois que j'ai regardé, le Parti communiste chinois, je crois que c'est à peu près 80 millions de personnes. Un peu plus de membres du Parti communiste chinois. Ouais. Donc il peut y avoir quelques désaccords quand même.
Voilà donc ce cas chinois. Il faut aussi qu'on parle des entreprises, parce que on va avoir d'ici quelques jours, il y en a déjà quelques-unes qui sont en franc-tireur, mais on va avoir dans quelques jours les premières publications d'entreprises qui vont émailler ce début d'été. Qu'est-ce que vous allez guetter là-dedans? Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que, comme vous le laissiez entendre au début, les boîtes, pour le moment, elles répondent présent, elles sont là, elles ont fait le job? Frédéric.
Alors oui, les boîtes sont là. Il y a quand même aujourd'hui, enfin, pas de récession. Néanmoins, nous, c'est plutôt ça qui nous inquiète. Hein. Je pense que le problème aigu d'inflation est probablement en grande partie derrière nous. Bon, il est remplacé par des banques centrales moins accommodantes, mais bon, qui vont infléchir progressivement leur discours, en tout cas probablement vers la rentrée, c'est ce que nous pensons. En revanche, du côté des entreprises, je trouve que c'est un petit peu plus inquiétant, puisque au fond, on n'a pas tellement eu de révision à la baisse des profits malgré le ralentissement. Et on a toujours, hein, dans les anticipations des analystes, une expansion des marges. Et on a du mal à accepter ça en disant, voilà, ralentissement économique, prix des matières premières plus élevés, augmentation de salaire, augmentation du coût de l'emprunt, avec des marges en expansion. Donc on a quand même le sens. Et d'ailleurs, les marges ont commencé à se tasser un petit peu. Donc on pense qu'il peut y avoir quand même des déceptions du côté de la croissance bénéficiaire. Et ce qu'on regardera vraiment, pour nous, c'est les marges, en fait. Hein. Qu'est-ce que vont nous dire les entreprises sur leur capacité à générer des marges à long terme? Et je pense que les marchés pourraient être déçus. C'est une des raisons, nous, pour lesquelles, enfin, la principale raison pour laquelle on conserve aujourd'hui une position prudente sur les marchés actions.
Et les boîtes, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous allez surveiller particulièrement dans le langage des management, etc.?
Déjà, on est très surpris par la résilience des entreprises. Hein. Il y a eu pas mal de séminaires chez les brokers où les CEO se sont exprimés. Pour l'instant, eux ne voient rien de négatif. Alors bon, en 2008 non plus, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de temps avant de réaliser. Mais pour autant, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils arrivent à faire passer les prix. La hausse de leur coût de l'énergie. Alors, à la fin, jusqu'où, hein, parce que le consommateur, il ne peut pas à la fois ne pas être augmenté, ne pas avoir le salaire augmenté, mettre 150 euros dans le plein d'essence, etc. Mais pour l'instant, en tout cas en B2B, on va dire, ils arrivent à faire passer les prix. Alors, moi, ce que je me dis, mais c'est une explication très, très personnelle, c'est que c'est un peu le syndrome Ferrari. Ferrari doit vendre 10 000 véhicules dans le monde par an. Il peut se passer n'importe quoi, une guerre, de l'inflation, de la récession, ils vont vendre leurs 10 000 véhicules. Et j'ai l'impression, en fait, la question, c'est quelle est la sensibilité de la clientèle de chacune des entreprises. Ferrari, c'est un cas particulier, mais sur les 7 milliards d'habitants, il suffit qu'il y en ait 500 millions qui ne soient pas touchés par la crise, peu touchés, pour continuer à faire vivre ces grandes entreprises. Donc en fait, il faut les regarder au cas par cas. Et est-ce que les clients de L'Oréal...
Pensez là, voilà, au grand nom, quoi.
Ouais, mais pas que. J'en sais rien, je vais prendre Le Grand qui vend, entre autres, des interrupteurs. Ils font pas que ça, heureusement. Mais est-ce que cette clientèle est réellement touchée? Et il y a une dichotomie entre les classes les moins favorisées qui, eux, sont touchées par l'augmentation du prix des pâtes. Mais pour certains, même 50% d'augmentation du prix des pâtes, ça ne va pas les empêcher de continuer à faire de la rénovation de leur maison, etc. Donc en fait, il y a une différence entre les résultats des entreprises et la macroéconomie. Mmh. Voilà. Mais ça, faudrait approfondir et au cas par cas.
Du coup, est-ce que vous pensez, alors ce matin, vous allez me dire, non, il n'y a pas de baisse, mais enfin, bon, il y a quand même eu baisse sur le marché, parce que je rappelle quand même qu'en début d'année, on était au 7003 et qu'à l'heure actuelle, on est à 6100 et on était quelques centaines de points plus bas il y a quelques jours. Est-ce que du coup, cette baisse qui a l'air de s'être installée sur les 6000 et quelques ouvre des opportunités ou est-ce qu'il faut encore être prudent?
Nous, on pense qu'il y a quand même quelques opportunités intéressantes. On pense, par exemple, aux valeurs défensives. Alors, parmi les valeurs défensives, c'est plutôt la santé qui va nous intéresser. Pour les raisons qui viennent d'être évoquées là, la consommation courante, par exemple, la pression sur le pouvoir d'achat risque de mal se comporter. D'ailleurs, on l'a vu, mais la santé, c'est quand même des opportunités de croissance à long terme, avec le vieillissement de la population notamment, et des valeurs qui sont très très peu sensibles à la baisse du cycle économique. On pense aussi qu'on peut aussi aller chercher du côté des valeurs de croissance. Alors, on a été un petit peu à l'écart. l'écart pendant un moment, on était plus value. Là, je pense que à partir du moment où on va commencer à avoir de meilleurs chiffres sur l'inflation, on a commencé, et puis avec la baisse des matières premières, on risque d'avoir ça. Eh bien, on a peut-être vu le pire sur les hausses de taux longs. Hein, je parle pas des taux des banques centrales, hein, sur les hausses de taux longs. Et ça peut porter les valeurs de croissance, surtout que la croissance, on va commencer à en chercher. On en trouvera de moins en moins dans les valeurs cycliques. Et bon, les investisseurs aiment bien quand même avoir un petit peu de croissance bénéficiaire. Ils vont aller la chercher peut-être du côté de ces valeurs-là. Donc ça peut être les énergies propres, ça peut être le digital. Donc je pense qu'il faut commencer à se réintéresser, et d'ailleurs les marchés ont commencé à le faire, à ce type de secteur.
Des opportunités qui se dessinent ou pour le moment encore de la prudence qui prévaut?
C'est-à-dire qu'effectivement, on est en pleine guerre en Europe, on ne sait pas jusqu'où l'inflation va aller, et on parle de récession. Donc on va dire il y a tout le cocktail pour être prudent. Cela dit, le marché, comme vous l'avez dit, a quand même baissé. Bear market sur tous les marchés, hein, enfin au sens littéral, c'est 20% de baisse. Nasdaq en était à 30 et l'Eurostock 50 à 20. Donc on a déjà anticipé. Et après, sur les grandes thématiques, hein, valeurs défensives, croissance ou valeurs cycliques, effectivement, le jour où on considère qu'on est à un pic d'inflation, alors on le dit chaque mois, mais ça va bien finir par arriver, il y aura une détente assez forte des taux et toutes les valeurs qui s'évaluent par rapport à l'actualisation de leurs bénéfices bénéficieront. Donc c'est ce que disait Frédéric, les valeurs plutôt de croissance, défensives. Quant aux cycliques, elles anticipent déjà dans les cours une récession. Voilà. Donc je pense qu'il y a plein un énorme potentiel de baisse sur les marchés. Alors, c'est difficile d'inciter les clients à rentrer massivement avec toutes les incertitudes qu'on a. Mais attention, ça serait pour moi dangereux de entre guillemets, shorter le marché, ouais, comme on peut dire. Quoi.
Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Rollin pour Pictet AM, Eric Turgeman pour Ofi AM était au cœur du face-à-face du jour. Dans un instant, on va aller faire un détour justement sur ces marchés, histoire de prendre le pouls technique grâce à André Atouigny. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez nous retrouver en direct ou en différé, eh bien en différé, ce sont nos podcasts, nos replays qui vous attendent sur le site.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
11h30, vous êtes sur BFM Business, au cœur de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi pour vous donner toutes les clés pour gérer au mieux votre patrimoine. Et ça passe bien évidemment par une part boursière. Et donc, à l'entame de chaque demi-heure, vous le savez, on file sur le marché. Et c'est Andrea Twenny que l'on retrouve chez Saxo Bank. Bonjour, rebonjour Andrea. Merci d'être avec nous ce matin. Bon, dis donc, c'est un petit peu moins fringant qu'on était tout à l'heure, même si a priori les 6100 semblent vouloir constituer un support.
Oui, c'est un niveau en tout cas qu'on teste. On gagnait un peu plus de 1% tout à l'heure et là, c'est vrai qu'on s'est un petit peu essoufflé sur le marché. Alors après, il y a rien de très inquiétant. C'est vrai qu'on avait une fin de semaine qui était plutôt prolifique avec une belle progression du marché. On a un petit peu ralenti sur la dernière heure. Même si, bon, pour le moment, on tient les 6100 points, ce qui serait plutôt positif de se maintenir en tout cas au-dessus de ce niveau, c'est ce qu'il faudrait viser. Au-delà, on a deux niveaux de support, un 6050-60, un 6035, si jamais on venait à casser ces 6100 points. Mais c'est vrai que globalement, on a un sentiment qui semble être un petit peu meilleur depuis la fin de semaine dernière, notamment autour de l'inflation, avec cette projection de l'indice de confiance de l'Université du Michigan sur la partie inflation qui a été revue à la baisse. Ça a été un peu une surprise pour les marchés qui ont accueilli la nouvelle de manière assez positive. On a aussi une semaine technique qui va être assez intense. On est en fin de semestre, donc on a beaucoup d'arbitrage, de portefeuille, et donc du coup ça va créer des mouvements techniques, en tout cas sur le marché. Ça peut être un facteur positif, on va dire, sur les indices, ces arbitrages, notamment après ce dernier trimestre assez compliqué qu'on a connu sur les marchés. Donc il faudra surveiller la situation à ce niveau-là, avec bien sûr des stratégies d'options aussi qui peuvent tirer du coup les indices vers le haut d'ici l'échéance. Donc à voir un petit peu comment la situation évolue. On a toujours la macroéconomie qui est un petit peu au centre de l'attention des investisseurs, avec encore des publications qu'on aura cette semaine, et notamment l'indice Core PCE qui est vraiment l'indice le plus important en matière d'inflation pour la Fed. Donc,
et en plus, il y a Sintra, avec tous les banquiers centraux, les économistes réunis pour penser autour de l'inflation.
Tout à fait. Donc toutes les anticipations autour des banques centrales, on sera quand même très attentif à ce qui se passe à Sintra et toutes les déclarations qu'il pourrait y avoir, même si on commence à être assez clair avec l'audition de Powell la semaine dernière, les derniers propos de la BCE, on y voit quand même assez clair dans la stratégie des banques centrales. Mais c'est vrai que dans cette logique vraiment d'anticiper que ce soit la récession, l'inflation et les politiques monétaires des banques centrales, c'est évidemment un rendez-vous qui sera très suivi et les déclarations seront vraiment scrutées par les investisseurs. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, on a un marché qui va un peu mieux. Là, on repasse légèrement au-dessus des 6100 points. Donc, il faudra surveiller l'évolution avec les prochains niveaux de support que j'avais cités, notamment 6050, 60 et 6035 qu'il faudrait essayer de tenir pour maintenir, on va dire, le cap du rebond qui a été engagé la semaine dernière sur le marché.
Merci beaucoup, Andrea. Andrea Twenny, donc, depuis Saxo Bank ce matin et le marché parisien, qui donc, pour le moment, se maintient en territoire positif, mais la tendance est tout de même érodée. Plus 0,48, 6102 points, alors qu'on culminait tout à l'heure un peu au-dessus des 6150, à la porte des 6160 points ailleurs en Europe. La tendance reste d'ailleurs un petit peu plus dynamique, puisque l'Eurostock 50 gagne toujours quasiment 1%.
BFM Business Partenaire.
Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business.
La semaine dernière, c'est donc tenue la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. On était au Carrousel du Louvre à Paris. Et comme à chaque édition, nos partenaires nous accompagnent durant les quelques semaines qui entourent l'événement. Mehdi Gagi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Horizon AM. On ne déroge pas à la règle. Un petit mot de présentation d'Horizon AM.
Oui, Horizon Asset Management est une société de gestion de portefeuille. Elle développe des solutions d'investissement pour le compte de particuliers, entreprises, professionnels de la finance. Et ces solutions d'épargne sont destinées à financer la création de logements en France, que ce soit du logement privé, social, du logement géré. En marge, nous produisons également des maisons de santé, des retail parks, etc.
Voilà donc le cadre posé et on s'intéresse donc à ce monde immobilier. On est, on va le rappeler, dans un contexte d'inflation, de hausse de taux, de guerre en Ukraine. Et le marché de l'immobilier résidentiel fait malgré tout preuve de résilience, c'est ça ?
Déjà, je pense que le terme résilience en soi témoigne d'une tendance long terme, c'est pas un comportement à l'instant T. Et quand on regarde le passé récent, ces deux dernières années post-Covid, on voit que le marché résidentiel, notamment en termes de prix, s'est très bien tenu, une hausse de l'ordre de 5% annuel. En termes de volume, les records ont tous été battus. L'année dernière, 1,2 million de transactions. Donc ça montre bien que malgré, je dirais, une psychologie qui peut être défaillante sur un court terme, les acteurs de l'immobilier, les acquéreurs et les producteurs maintiennent les fondamentaux. Et donc ça, c'est un point important. Après, sur le marché immobilier en soi, quand on parle marché immobilier, il faut parler d'abord du financement. Et le financement, il y a les acteurs privés comme nous.
Bien sûr.
Et les acteurs privés comme nous, écoutez, nous, quand on regarde nos chiffres sur le premier semestre de cette année, nous avons doublé notre collecte nette, ce qui démontre une vraie appétence. Je pense qu'il y a une réserve de cash assez importante chez les particuliers notamment, et qui est prête, elle, à se dessiner, et notamment dans un contexte, vous disiez, inflationniste, c'est vrai. Mmh. L'immobilier, historiquement, arrive aussi à se comporter plutôt de façon cohérente vis-à-vis de l'inflation. Et je crois qu'un certain nombre d'épargnants commencent à sentir cela. Et c'est vrai que les solutions que nous proposons aujourd'hui arrivent à délivrer plus de 4% annuel distribué. Donc, je crois que cette logique-là amène un élément positif. Ensuite, il y a les acteurs de l'immobilier, les producteurs de l'immobilier, donc les promoteurs immobiliers notamment. Bon, eux, ils sont impactés, clairement impactés par la hausse des coûts de construction. Mais c'est une hausse qui a commencé. On la lit un peu à l'Ukraine, etc. Mais la chaîne de logistique et l'approvisionnement, ça fait 2 ans qu'il a quand même, il s'est un peu grippé. Et donc, je dirais que les acteurs aujourd'hui ont une bonne psychologie par rapport à ça et arrivent à accepter des éléments d'incertitude. Voilà, l'incertitude est aujourd'hui incorporée. Enfin, il y a le financement bancaire.
Ouais.
Et le financement bancaire, effectivement, il y a des hausses de taux, 50 points de base de hausse de taux. Là, on était à 1 point, on est à 1,50. Ça désolvabilise une certaine partie des acquéreurs immobiliers. Mais aujourd'hui, quand vous avez une réserve de cash, vous pouvez venir augmenter votre apport. Et à partir de là, aujourd'hui, nous n'avons pas constaté, nous, une tendance d'infléchissement, mais plutôt un surinfléchissement du coût des crédits, avec un apport de fonds propres qui est plus important pour les acquéreurs.
Justement, si on s'arrête juste sur cette guerre en Ukraine, on a parlé de plein de choses, sur le fer, sur effectivement l'énergie, et donc sur le fait de pouvoir faire du carrelage, des tuiles, etc. Enfin, quelles sont vraiment concrètement les conséquences de cette guerre en Ukraine sur le marché immobilier français ?
Certains matériaux sont impactés. Clairement, l'acier, effectivement, vous citez le carrelage, mais tout ce qui est seconde œuvre en général. Mm-hmm. Les hausses sont entre 5 à 30% d'impact. Donc effectivement, une typologie des acteurs immobiliers qui sont de petite taille subissent de plein fouet ça. Et les acteurs de plus grande taille, ceux qui disposent de carnets de commandes un peu plus importants, ceux qui peuvent faire appel à des entreprises générales et de BTP un peu plus consistantes, ne subissent pas ce coût court terme. Donc effectivement, il y a une conséquence, mais davantage quand même à une crispation de la logistique internationale. Moi, je dirais que c'est pas à cause de l'Ukraine, c'est plutôt la Russie, en fin de compte, hein, des producteurs importants.
Bon, malgré tout, quelle stratégie vous avez mis en place, vous, afin de contrer un environnement qui n'est pas très porteur, quoi, instable?
Oui, incertain, clairement. Aujourd'hui, deux actions. D'abord, un arbitrage sur l'existant et une prévision de stratégie future. Sur l'existant, nous avons commencé sur notre portefeuille de, finaliser tout ce qui est opération en dessous de 9 mois de chantier en arbitre. On va le plus vite possible pour absorber le coût. Finir le chantier, ça c'est un élément important. Ensuite, on a commencé à se défausser de certaines opérations qui ont déjà été modélisées financièrement, mais ne sont pas rentrées encore en chantier. Donc on ne pourra pas assumer la hausse des coûts futurs, alors que d'autres acteurs aujourd'hui peuvent le faire. Ça, c'est pour l'existence, c'est vraiment des arbitrages sur une typologie d'opération. Ensuite, sur l'avenir, et c'est ce qui compte, hein,
ouais.
On a commencé une stratégie de stock picking. On va chercher tout ce qui est projet immobilier. Alors, on m'excuserait un petit peu du jargon, mais qui offre des positions de pricing power. Donc, clairement, une résistance sur le prix.
Il reste de la marge pour passer des hausses de prix.
Oui, exactement. Je vous cite quelques exemples. Nous avons signé des fonciers à Cannes, à Beausoleil. Donc là, on est sur une catégorie socio-professionnelle qui est moins impactée par le surenchèssement du crédit, qui est capable d'aller augmenter son apport et, en définitive, aller payer son besoin de logement. Vous voyez. Typiquement, le stock picking aujourd'hui vers ces arbitrages-là nous paraît important. Ensuite, vous avez aussi différentes opérations qui tournent très rapidement sur le court terme. Nous pensons à des opérations du type démembrement de propriété ou du co-living qui, dans un laps de 12 mois, s'arbitre bien, ça s'achète et ça se revend. Donc voilà, nous, on concentre aujourd'hui notre portefeuille autour de ces deux thématiques. Un stock picking qualitatif sur une catégorie socio-professionnelle et des opérations court terme.
Merci beaucoup, Mehdi Gaji, pardon, d'être passé nous voir pour Horizon Asset Management qui nous accompagnait donc sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine qui se tenait la semaine dernière au Carrousel du Louvre. À bientôt.
Merci bien. Au revoir.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et chaque jour, vos questions trouvent leurs réponses sur l'antenne de BFM Business. Et ce matin, c'est grâce à Christian Fontaine qui nous accompagne, comme chaque lundi, le directeur de la rédaction adjointe du Revenu. Rebonjour Christian.
Rebonjour Cédric, bonjour à tous. On y va.
Allez, Pierre voudrait savoir, nous allons acheter un appartement à deux, sachant que j'ai un gros apport. Quelles sont les mesures à prendre pour, il met des guillemets, protéger cet apport en cas de séparation. Engager mais prudent. Hein.
Alors engager mais prudent, mais oui, bien, sur le plan financier, il n'a pas forcément tout à fait tort. En tout cas, c'est l'un des sujets de cette émission et un sujet plutôt récurrent. Alors, les dispositions à prendre dépendent un peu de la nature juridique de la relation qu'il a avec sa chère étante, mariage, pacs, union libre. Et le mieux, très certainement, c'est d'en parler à un homme de l'art, à un notaire, sachant qu'il n'y a pas deux cas particuliers. Alors, si on veut un tout petit peu schématiser, prenons le cas que Pierre et son ami sont en union libre ou paxé. Dans ces cas-là, ils vont acheter en indivision. Les choses sont assez simples. S'il a un apport supérieur à celui de sa compagne, et tout simplement, il détiendra non pas 50% du bien acheté en indivision, mais 60 ou 70%. Attention, en cas de prêt commun, chaque emprunteur doit rembourser dans des proportions identiques à celles indiquées dans l'acte d'achat, sinon en cas de séparation, il pourrait y avoir un hiatus. Deuxième cas de figure, Pierre et son ami sont mariés, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, donc ça c'est le cas de 80% des Français qui sont mariés. Dans ces cas-là, si par exemple il a profité d'une donation, le notaire va certainement, ou en tout cas il peut murmurer à l'oreille du notaire de rajouter dans l'acte d'achat ce qu'on appelle une clause de remploi, ce qui lui permettra en cas de séparation ou de divorce de retrouver plus facilement ses petits.
Et s'il ne le fait pas, il pourra quand même tracer en disant « mais regardez ».
C'est toujours possible, mais c'est plus facile de tracer avec une clause de remploi. Voilà.
Donc faut penser, mais parce que souvent on n'ose pas. On est au début de l'histoire, tout va bien, on se dit que ça va faire peindre.
Oui, une clause de remploi. Sinon, ça sera toujours possible de prouver, vous pourrez prouver qu'à un instant T, vous avez reçu une somme sur un compte et que quasiment de façon simultanée, vous avez dépensé une grosse somme pour acheter un bien immobilier. Mais la simultanéité ne fait pas forcément lien de cause à effet. Donc prudence, mieux vaut adjoindre ces quelques lignes dans l'acte d'achat qu'on appelle une clause de emploi. Et puis, autre cas classique, en cas de prêt, il arrive très souvent, notamment en période de hausse des taux d'intérêt, que les parents prêtent aux enfants une partie de l'argent nécessaire à l'acquisition d'un bien immobilier. Là aussi, il faut mettre tout par écrit pour éviter tout souci en cas de séparation ou en cas de décès des parents, donc des problèmes entre Pierre et ses frères et sœurs, par exemple. Donc voilà, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'au moment d'acheter un bien en commun, mais c'est souvent sur le plan patrimonial la principale, la plus grosse décision, peut-être sera sur le plan financier la plus grosse décision de votre vie. Ça peut être tentant donc alors de ne parler que d'amour et d'eau fraîche. Malheureusement, il y a un couple sur deux qui dans les grandes villes divorce. Donc si vous mettez un petit peu plus de sous dans la cagnotte que votre partenaire, il y a peut-être quelques précautions à prendre pour que tout se passe bien le jour de l'éventuelle séparation, en espérant que ça n'arrive jamais là.
Question de Florence. Pendant les vacances, ses parents ont accueilli les enfants de Florence et ils ont donc employé une nounou pour garder ses propres enfants. Et donc, elle se demande quel sera le taux de la réduction d'impôt.
Alors, je ne sais pas si Florence parle des vacances passées ou des vacances à venir. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le taux de réduction sera de 50%. 50% de l'ensemble de la somme engagée, y compris les charges sociales, avec un plafond de 12 000 euros et de 15 000 euros pour, si c'est une première déclaration, la première fois que Florence ou ses parents emploient un salarié à domicile. Donc, c'est un puissant levier de réduction d'impôts. Il faut savoir que si la nounou entre guillemets est employée au domicile des parents, là il n'y a pas le choix, ce sont les parents qui profiteront de la réduction d'impôts. Bon, la bonne nouvelle entre guillemets,
d'un côté, c'est eux qui a priori ont payé l'employé,
c'est eux qui a priori vont dépenser vont décaisser. La bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, que vous soyez retraité ou pas, salarié, quel que soit votre statut, de contribuable, cette réduction d'impôt est un crédit d'impôt. Donc, si jamais l'avantage fiscal est supérieur au montant de l'impôt dû, l'administration fiscale vous remboursera la différence. Voilà. Cette niche fiscale de l'emploi d'un salarié à domicile est l'une des niches les plus utilisées avec les dons aux associations et aux œuvres philanthropiques. Il faut savoir qu'il y a quand même derrière un certain nombre de pièges. On a parlé tout à l'heure des plafonds de prise en charge. Donc, ce sont des plafonds généraux, globaux, mais il existe aussi un certain nombre de plafonds pour telle ou telle tâche, des tâches de jardinier, d'informatique à la maison, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué qu'il n'imagine, qu'on ne le pense. En plus, maintenant, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, progressivement, vous n'êtes plus obligé d'avancer l'argent de cet avantage fiscal, puisque en fait, vous n'êtes déduit sur les sommes prélevées sur votre compte, tiennent compte déjà de cet avantage fiscal. C'est nouveau, ça vient de cette année, et ça se met en place progressivement. Il n'empêche que cette réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile, très répandu, on le répète, et ne manque pas de pièges. Donc, je vous conseille d'aller lire tous les conseils sur lerevenu.com. Sinon, vous pouvez également aller voir sur service-public.fr, le site officiel de l'administration française, rubrique particulier, argent, puis impôt sur le revenu, pour plus de détails sur cette niche fiscale.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'elles sont plafonnées. C'est-à-dire que quand on a prévu d'autres manœuvres, entre guillemets, fiscales, il faut être sûr que tout...
Alors, elles sont doublement plafonnées. D'abord, le plafond hors cas particulier, le plafond pris en compte pour calculer cette réduction d'impôt, ce crédit d'impôt de 50%, c'est 12 000 euros. Bon, il y a des majorations pour enfants à charge, mais on va dire 12 000 euros, donc divisé par deux. Ça fait quand même une réduction d'impôt de 6 000 euros. C'est plafonné, mais quand même à un certain niveau. Et l'autre plafonnement, c'est qu'effectivement, cette réduction d'impôt rentre dans le plafonnement global de l'ensemble des niches fiscales à 10 000 euros. Donc, autrement dit, si vous avez déjà fait un Pinel qui vous donne droit à 3, 4, 5 000 euros d'économie par mois, plus que vous employez, vous n'employez pas, mais que vous allez employer une personne à domicile, faites très attention parce que vous pouvez profiter d'un avantage fiscal qui excède les 10 000 euros. Et dans ces cas-là, vos avantages fiscaux seront rabotés à hauteur de 10 000 euros. Oui, il y a des plafonds. Il n'empêche, c'est quand même un puissant levier pour réduire ses impôts tout en se faisant aider. À la fois, les personnes âgées peuvent être concernées, mais à la fois les jeunes parents.
Oui, donc attention à toutes ces mises en place. Hein.
Voilà, et je dirais que pour les jeunes parents, vous pouvez, il faut le savoir, il y a une autre réduction en impôt qui est cumulative avec celle dont on vient de parler. C'est la réduction d'impôt pour les frais de garde de jeunes enfants à l'extérieur de domicile. Pour appeler un chat, hein, c'est si vous confiez la journée votre enfant à une crèche.
Ouais.
Voilà. Et il faut savoir que donc là, vous avez le droit à une réduction d'impôt. Les montants sont quand même beaucoup plus faibles. Et donc, si vous employez quelqu'un pour aller chercher les enfants à la sortie de la crèche, là, c'est un autre régime fiscal, celui dont on vient de parler.
Ça, voilà. C'est aussi une jungle. Hein.
C'est aussi une jungle, mais c'est très rentable de se plonger de rentrer un petit peu dans la technique fiscale, de se plonger dans notre code général des impôts. Il y a beaucoup à gagner, ou plutôt dans le cas présent, à payer moins.
Et les simulateurs sont très bien faits.
Les simulateurs sont bien sûr, il y en a sur un certain nombre de sites, ils sont très bien faits.
Riyad, célibataire de 27 ans, il a une capacité d'épargne de 600 euros par mois, il a un PEL et 6000 euros sur un livret A et il envisage maintenant de souscrire une assurance vie et il voudrait que vous l'aidiez un petit peu à régler la clé de répartition en fait.
Alors Riyad,
construisez-lui son patrimoine.
Alors tout dépend un peu vos priorités, mais peut-être que vous vous intéressez à votre épargne, c'est déjà très positif. Peut-être, attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Je m'explique. Lorsqu'on est jeune, Riyad a 27 ans, la constitution d'un patrimoine se fait par étapes. Première étape, donc, constitution d'une épargne de précaution pour remplacer la machine à laver, voire la voiture, le moment venu. C'est, alors on dit toujours, l'équivalent des 2 ou 3 mois de revenus que vous mettez sur un livret A. On peut dire remplissez un livret de développement durable ou remplissez un livret A pour cette épargne. Ensuite, c'est l'acquisition de la résidence principale. Donc, il faut se constituer un apport le plus élevé possible afin, je dirais, de réduire la charge de la dette et puis être en position de force vis-à-vis de son banquier. C'est important dans la conjoncture actuelle et d'obtenir un taux satisfaisant. Donc, il faut épargner, pourquoi pas, sur un PEL. En fait, le PEL est très critiqué. Bon, quand même un placement qui est détenu par plus de 10 millions de Français. C'est vrai qu'il est relativement peu rémunérateur, 1%. N'oublions jamais que ouvrir un PEL aujourd'hui, c'est figer le taux auquel vous pourrez emprunter dans 4 ans. Ce taux, c'est 2,2%. Il y a quelques mois, ça faisait rigoler. Aujourd'hui, 2,2%, ça fait moins rigoler. Et dans quelques mois, ce taux pourrait redevenir attractif, donc attrayant. Donc, pourquoi pas le PEL ? Troisième étage de la fusée pour une stratégie patrimoniale et de placement réussi, c'est bien sûr, mais un peu plus tard, Riyad, quand vous aurez 35-40 ans, c'est la constitution d'une épargne diversifiée en bourse, immobilier, assurance vie. Il n'empêche que vous avez 25 ans, dès votre âge, il convient de s'initier un petit peu à la bourse, d'ouvrir les enveloppes fiscales indispensables. Dans le cadre de votre entreprise, si vous êtes salarié, vous avez peut-être accès un PE, un plan d'épargne entreprise. Regardez ça, cette enveloppe fiscale un peu de près. Ça vous permet de ne pas payer un euro d'impôt sur vos gains, donc réalisés dans le cadre de ces dispositifs. C'est intéressant. Ouvrez bien sûr un PEA et un contrat d'assurance vie. Un PEA pour faire vos premiers pas en bourse et vous initier.
Donc ça, plutôt qu'une assurance vie.
J'aurais tendance à dire les trois, mais dans la conjoncture, j'aurais tendance à dire que dans la conjoncture actuelle, s'il fallait choisir, oui, un PEA pour faire ses premiers pas en bourse, pour profiter d'un régime fiscal très attrayant et pour s'initier à un placement qui rapporte gros, certes volatile, mais regardez là, la performance du CAC 40, dividendes réinvestis. Mais
on peut faire aussi un peu de bourse en assurance vie avec des fonds.
Vous avez entièrement raison. On va dire qu'au revenu, c'est très simple. On conseille de spécialiser les enveloppes. Le PEA pour les actions européennes et l'assurance vie pour internationaliser ses placements et donc pour aller au-delà nos couleurs des frontières de la zone euro ou de l'Europe.
On rappelle, Ariad, qui ne sait peut-être pas que c'est un certain nombre de fonds et d'actions ne sont pas éligibles au PEA.
Alors, le PEA, donc, c'est une enveloppe fiscale qui peu ou prou est réservée aux sociétés qui ont leur siège dans l'un des 27, je pense, je ne me suis pas trompé, pays nos couleurs de l'Union européenne. Bon, il existe des techniques assez sophistiquées dont on parle souvent ici qui permettent d'aller au-delà des frontières de l'Europe. Mais effectivement, investissez en actions européennes via le PEA. C'est une enveloppe fiscale qu'il faut ouvrir le plus tôt possible. Les 27-28 ans, c'est l'âge idéal. Et puis, vous avez bien sûr, pour mondialiser vos placements, investir dans les fameux GAFAM, les grands gagnants de la crise sanitaire, via un contrat d'assurance vie, via un fonds, notamment les trackers, puisque qui répliquent la performance de l'indice Standard & Poor's 500, qui est l'indice de référence utilisé par les professionnels sur le marché américain et qui est investi peu ou prou à hauteur de 25% dans les fameuses GAFAM qu'on cite tous les noms, les Google, les Amazon, les Facebook, les Apple.
Voilà donc, Riyad, quelques éléments pour, on va dire, répartir votre patrimoine. Question de Nathalie, il vous reste deux minutes, Christian. Elle a une fille de 14 ans et elle s'inquiète pour le financement des études. Qu'est-ce qu'on lui conseille ?
Alors d'abord, Nathalie, bravo, vous anticipez, votre fille, elle a 14 ans, donc vous avez encore environ 4 ans devant vous. Donc ça, c'est un bon point, c'est l'élément clé, le mot-clé d'une stratégie patrimoniale réussie. Bien sûr, commencer par sortir la calculette. Alors là, c'est pas très très compliqué. On va dire coût moyen des études, ça grimpe très vite à 10 000 euros par an, y compris en fac. Attention, là, c'est tout compris, y compris le coût du logement notamment. 10 000 euros, ça peut monter très vite à 20 000 euros en cas d'école de commerce. Donc là, il y a un vrai enjeu de financement. Ben, les solutions, vous les connaissez un peu. Vous avez bien sûr les bourses d'État, les prêts étudiants, mais surtout l'épargne des parents. Alors la question que doit se poser un tout petit peu Nathalie, c'est est-ce que je mets de l'argent de côté un petit peu chaque mois pendant 4 ans sur un placement dédié dans lequel je puiserai le moment venu pour financer les études de ma fille ? C'est une stratégie possible, mais vu l'échéance 4 ans, vu l'état des marchés financiers, elle va pas prendre de risques. Donc, elle va, vu l'importance des enjeux, du coup, elle va pas gagner grand-chose. Le conseil du revenu à Nathalie, ce matin sur votre antenne, c'est plutôt de profiter de cet objectif pour mettre à plat l'ensemble de ses placements, voir s'ils répondent bien à ses besoins et de se doter d'une épargne diversifiée dans lequel elle puisera le moment venu pour financer.
Elle choisira au moment opportun.
Au moment opportun, elle choisira, on en parlait, des différentes enveloppes fiscales, de puiser plutôt dans le PEA, de l'assurance vie ou l'épargne salariale.
Merci beaucoup. Christian Fontaine, directeur de la rédaction délégué du Revenu, qui répond chaque lundi à toutes vos questions. Le marché parisien lui reste en hausse, mais ça devient timide. Hein. Plus 0,25 seulement, 6088 pour le CAC 40. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Guillaume Paul, 60 minutes business en direct du Palais Brongniart dans le cadre de l'édition 2022 de la conférence de l'USI, événement organisé à l'initiative d'Autotechnologie avec notamment des cycles de conférences destinés aux acteurs de la tech. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.